Seigneur notre Dieu, nous venons, après avoir passé ce temps ensemble à chanter, à t'adorer, à exprimer notre reconnaissance pour ton esprit qui nous sanctifie, nous venons à tes pieds et nous te prions que tu nous conduises dans ta parole, que tu illumines nos cœurs, que tu ouvres notre entendement, que tu inclines nos pensées, nos cœurs, pour que nous mettions en pratique ta parole. Guide-nous à travers elle et donne-nous des cœurs désireux encore de te chercher davantage, de rechercher encore davantage cette communion avec toi. Conduis-nous par ton Esprit Saint, nous te prions. Amen. La semaine dernière, nous avons considéré, après avoir considéré il y a plus de 50 jours maintenant presque, la résurrection de Christ, nous avons considéré l'ascension de Christ, et nous avons vu combien c'était une chose aussi importante à considérer. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche de la Pentecôte. Et ça ne vous a pas échappé. Je ne sais pas si, comme je l'ai dit la semaine dernière, vous y avez pensé à la Pentecôte. Si vous avez pensé même à cela, peut-être vous n'avez même pas pensé que c'était aujourd'hui le dimanche, on appelle dimanche de la Pentecôte. Et peut-être vous pouvez vous poser cette question: qu'est-ce que la signification de la Pentecôte? Si quelqu'un vous demande, mais c'est quoi? Tu fêtes la Pentecôte, mais c'est quoi la Pentecôte? Quelle réponse nous avons à donner à cela? Et je pense que c'est important parce que on utilise beaucoup les choses qui se sont passées à la Pentecôte et on a parfois tendance à se focaliser sur ces choses-là, mais c'est important de se poser la question de la signification aussi. Des choses. Et l'Éternel fait tout pour un but. Et il est important pour nous de considérer ça. Donc je voudrais ce matin que nous prenions quelques instants pour considérer quelques aspects, en tout cas, et voir un peu la signification de la Pentecôte. Alors, la Pentecôte est une fête juive. D'abord, c'est une fête relative aux récoltes. Elle est appelée, dans l'Ancien Testament, la fête des semaines. Et donc, elle est appelée comme ça parce que sa date est fixée à 7 semaines après ce qu'on appelle l'offrande des gerbes ou des prémices. Et vous pouvez trouver ça dans Lévitique, chapitre 23, versets 15 et 16. Je vous lis, par exemple, il est dit « Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. » Donc on l'appelle parfois aussi la fête des moissons. Et elle est célébrée, bien sûr, à la fin de la moisson qui correspondait à cette époque-là, à ce moment-là. Donc le livre de Ruth, par exemple, est un livre qui parle de la moisson. Vous vous rappelez de ça, c'était à l'époque de la moisson, de l'orge, etc. Et le peuple juif, en général, lit le livre de Ruth à l'époque de la Pentecôte. Parce que c'est un livre qui parle aussi de cela, de la récolte. Alors, la fête des prémices, bien sûr, c'est une fête qui avait, ou les gerbes, qui est une fête qui avait lieu à Pâques. Et donc, la Pentecôte se situe 50 jours après Pâques, comme on a lu dans le Lévitique, parce qu'il était dit, vous compterez 50 jours au lendemain du 7e sabbat et vous offrirez une offrande nouvelle. Donc, c'est pour ça, on sait maintenant que la Pentecôte, ça intervient 50 jours après Pâques. L'ascension, c'est 40 jours après Pâques, ici. Et quand l'apôtre Pierre, donc dans le livre des Actes, dit le jour de la Pentecôte, bien il faut penser que c'est le jour où les Juifs fêtaient cette fête particulière. Alors, quelle est la signification pour nous aujourd'hui, on pourrait dire, et même pour le peuple juif à l'époque de l'apôtre Pierre, de cette Pentecôte? Je vous invite donc à lire dans le livre des Actes, et au chapitre 2, ça commence le jour de la Pentecôte. Donc voilà, on va voir ce qui s'est passé ce jour-là. Alors essayez, quand vous lisez cela, de vous mettre à la place d'un, comment je vais dire, d'un Crétois, d'un Arabe ou de quelqu'un qui vient de la Cappadoce ou de la Mésopotamie, parce qu'il y avait des gens qui venaient de tous ces contrées-là, et puis qui sont là, venus à Jérusalem pour fêter, pour la fête de la Pentecôte. Et il se passe des choses étonnantes ce jour-là. Donc, Actes chapitre 2, et nous allons lire du verset 1 au verset 13. Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 13. Ici. Le jour de la Pentecôte, donc c'est la parole de Dieu que nous lisons, nous sommes attentifs à sa lecture. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun ? Pardon, et comment les entendons-nous dans notre propre langue, dans nos langues maternelles ? Partes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient, et il disait, ils sont pleins de vin doux. Voilà, jusqu'ici, pour l'instant, la lecture. Alors, quand le texte dit, la jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, peut-être vous posez la question, c'est qui ce « il » ? Il faut remonter quelques versets plus loin pour voir qu'il s'agissait des apôtres, probablement. Peut-être les 120, ce n'est pas dit ici, mais... qui étaient dans la chambre et qui attendaient, bien sûr, comme Jésus leur avait demandé d'attendre ce que le Père avait promis. Donc les nombreuses nations qui sont rassemblées là, ce jour-là, ils sont témoins de phénomènes extraordinaires. Imaginez ce que le texte dit ici. Tout à coup, un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison, des langues qui descendent comme des langues de feu qui se posent sur chacun, et puis les personnes, les apôtres qui se mettent à parler dans la langue de ceux qui étaient présents là. C'est un phénomène assez particulier, spectaculaire et extraordinaire. Mais la question qui vient, bien sûr, la première question qui vient à l'esprit, c'est celle que posent les témoins de cette scène, les personnes qui sont de toutes les nations. Que veut dire ceci ? Et c'est la question que nous voulons considérer aussi. Pierre se présente solennellement à eux ici pour expliquer ce que cela veut dire. Mais il est important donc de considérer cela. Il va donner... En tout cas, quelques traits, brosser la signification des événements qu'ils sont en train de vivre à ce moment-là. Donc, premièrement, il va dire que la Pentecôte est l'accomplissement d'une prophétie. La Pentecôte, c'est l'accomplissement d'une prophétie. Il dit pas, ouais, mais ça, c'est... Il n'explique pas le parler en langue, il n'explique pas le vent, il n'explique pas les langues de feu qui descendent. Il donne une signification, il dit, il montre que la Pentecôte, c'est quelque chose qui est ancré déjà dans la prophétie, les prophéties de l'Ancien Testament. Et il sait exactement ce que c'est. Regardez comment il répond au verset. Donc on continue la lecture au verset 14. Il dit « Alors Pierre se présentant avec les onze, éleva la voix et parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. » C'est la troisième heure du jour, il est 9h du matin. Hein, on n'est pas ivre à 9h du matin. Enfin, j'en ai déjà vu qui le sont à 9h du matin. Mais bon, en général, hein, on n'est pas ivre à 9h du matin. Comme quelqu'un disait, c'est l'heure du café plutôt, hein, à ce moment-là. Mais en tout cas, il leur dit, ces gens ne sont pas ivres. Verset 16, mais c'est ici, là, il va dire, voilà, ce que vous voyez là, c'est cela. C'est ici ce qui avait été annoncé par le prophète Joël. Donc il dit que la Pentecôte, c'est d'abord vraiment la réalisation, on pourrait dire, d'une prophétie particulière de l'Écriture. Et cette prophétie, c'est la prophétie de Joël qu'il va citer devant toutes ces personnes. Alors, que dit cette prophétie? Lisons-la. On peut la lire ici, on peut aller la lire aussi dans Joël, chapitre 2, versets 28 à 32. Si vous voulez faire un parallèle dans votre Bible, vous pouvez le marquer, peut-être ça y est déjà. Mais il dit ici, verset 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quand vous lisez cela et que vous comparez avec l'événement qui vient d'être décrit quelques versets plus haut, vous dites il y a peut-être des choses qui manquent, non hein? Toute la prophétie de Joël, quand il est question de signes dans le ciel, il est dit « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, de la vapeur, de la fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. » Tout cela ne s'est pas produit là ici. D'accord? Mais il y a une partie de ce qui est dit dans la prophétie de Joël qui s'est accomplie. Lorsque Joël fait la prophétie, il le fait depuis son époque, hein, comme un événement qui doit arriver, qu'il voit au loin. Et tout cela, c'est en une seule pièce. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, eh bien, on se rapproche des événements et on voit les espaces qu'il y a dans le déroulement d'une scène. Hein. C'est comme quand vous voyagez, si vous voyagez quelque part, vous allez à la montagne, je ne sais plus où, hein, vous pouvez voir quelque part un sommet, vous voyez quelque chose, où un seul dôme, vous dites, voilà, ben ça c'est le sommet, et puis quand vous marchez, vous vous approchez, mais vous voyez que entre les deux, il y a ce sommet, et puis il y en a peut-être un qui est encore un petit peu plus loin. Hein. Votre vision première était un seul bloc, parce que vous n'êtes pas dans le temps, ici, et c'est probablement comme cela que Joël présente la vision. Il y a tout qui est dans la même pièce. Il parle de ce jour grand, glorieux, le jour du Seigneur, mais ce jour du Seigneur, bien sûr, il s'étire quelque part dans l'histoire, hein. Et donc les derniers jours, ici, on voit quand on est, nous qui sommes maintenant dans ce côté-ci, après la Pentecôte, nous comprenons bien ici qu'il y a un temps entre cette partie de la réalisation de la prophétie et puis la réalisation de l'autre partie de la prophétie. Toujours est-il que ce que la prophétie souligne ici de Joël, c'est que la Pentecôte marque l'inauguration d'une ère nouvelle. Quand même. La Pentecôte marque l'inauguration d'une ère nouvelle. Il dit « dans les derniers jours ». Et « dans les derniers jours » font souvent référence à tout le temps qui sépare les deux venues du Messie, les deux venues de Jésus-Christ. Donc l'effusion de l'Esprit, telle qu'elle s'est déclenchée à la Pentecôte, atteste que nous sommes dans les derniers jours. Alors, des gens qui disent, mais ça fait plus de 2000 ans que nous sommes dans les derniers jours. Mais nous le sommes. C'est ce que la Bible dit. Donc la prophétie de Joël comporte bien sûr cette partie accomplie et puis une partie qui reste encore à accomplir. Mais la venue de l'Esprit, en tout cas, inaugure que cette période, que nous sommes dans cette période-là du développement du royaume de Dieu. Et ces terres nouvelles, c'est l'ère de la nouvelle alliance que le prophète Ézéchiel a décrit en ces termes. Je vous lis, il dit « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Et on sait que cela concerne la nouvelle naissance. Le cœur nouveau, l'esprit de Dieu qui habite dans le croyant, afin que il soit de l'intérieur même capable de mettre en pratique la loi de Dieu. Donc Ézéchiel, je crois que c'est 37, verset 26, si vous voulez noter ça. Donc les temps sont ceux ici que le prophète, ces derniers temps sont les temps que les prophètes ont même essayé, la Bible dit, de scruter eux-mêmes. Et l'apôtre Pierre lui-même qui parle ici, qui explique ici, il dit dans l'épître 1 Pierre, il dit ceci, « Les prophètes ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée et ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. » Il dit ici, « ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. » Ils avaient l'Esprit de Christ qui était en eux, mais ils savaient qu'il y a quelque chose qui vient, et ils sondent, ils voulaient comprendre, saisir ce qui allait se passer dans cette ère où l'Esprit, cette ère, on pourrait dire, marquée par l'Esprit de Dieu. Et c'est cette ère-là que l'apôtre Pierre met en évidence aux yeux de ceux qui l'écoutent. Donc la Pentecôte, oui, c'est l'accomplissement de, ici, la réalisation de la prophétie de Joël. Elle marque l'inauguration donc d'une ère nouvelle, mais elle marque aussi l'effusion de l'Esprit à toute catégorie de personnes. C'est ce que Pierre dit, regardez, il dit, on reprend la lecture, verset 17, « En ces jours-là, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » D'accord. Donc, toute chair, ici, bien sûr, ne désigne pas l'humanité tout entière. D'accord. Mais seulement ceux qui appartiennent à Christ. Tous ceux qui font partie du peuple de Christ. Ça veut dire donc, ici, toute catégorie de personnes. Qu'elles soient, ici on le voit, les vieux, les vieillards et les jeunes, les hommes et les femmes, et quel que soit leur rang social, les serviteurs, les servantes, il n'y aura pas de distinction qui concerne la race, le sexe, l'âge, etc., ou le niveau social. Et donc, Pierre dit ici, voilà, l'effusion de l'esprit, la Pentecôte marque aussi la venue de l'esprit sur toute catégorie de personnes. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de souligner cela? Dans l'Ancien Testament, si vous lisez, si vous vous souvenez, l'Esprit était donné de manière sélective. Lorsque vous lisez, l'Esprit était donné de manière sélective à certaines personnes pour leur permettre parfois d'accomplir une tâche particulière. Et prenez avec moi Nombre chapitre 11, par exemple. Nombre chapitre 11, juste pour avoir un exemple sous les yeux. Nombre chapitre 11. Et si vous lisez au verset Nombre chapitre 11, si vous lisez au verset 1, je crois, non, pardon, au verset 16, il dit, l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de toi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. On comprend ici que Moïse avait, lui, l'esprit de Dieu par lequel il pouvait accomplir la tâche qu'il avait. Mais cette tâche était devenue grande, n'est-ce pas? Et le peuple se plaint et Dieu dit, bon, mais je vais te donner des hommes qui vont, avec lesquels tu vas pouvoir partager cette tâche. Alors il dit, tu les amènes, il dit, je vais prendre l'esprit qui est sur toi et je vais le mettre sur eux afin qu'ils puissent aussi t'aider dans la tâche que tu accomplis. Donc il était nécessaire qu'ils aient l'esprit de Dieu sur eux pour accomplir cette tâche. Mais il ne l'était pas auparavant. Donc il était sur Moïse, mais pas sur les autres. Et dans ce même livre des Nombres, hein, si vous lisez encore un peu plus loin, au verset 25, il est dit, l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse, et il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. Je ne sais pas, ça veut dire qu'ils l'ont fait pendant un temps, mais après, ça n'était plus qu'ils l'ont pas fait. En tout cas, mais on voit ici, hein, vous pouvez lire d'autres passages aussi, où on voit que l'esprit vient de manière sélective sur ces personnes pour les équiper pour une tâche, ici, qui est une tâche particulière. Mais Pierre dit que ce que vous voyez là, ici, dans ces manifestations qui se produisent là, ce jour-là, c'est le signe que c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël dans laquelle Dieu dit que désormais son esprit sera sur tout type de personnes, pas seulement sur les prophètes, mais sur tous ceux qui sont de son peuple. Et il dit, c'est cela là, qui est en train de s'accomplir maintenant. Et même à l'époque de Moïse, hein, rappelez-vous, le peuple même ne voulait même pas avoir ce contact avec Dieu. À un moment donné, le peuple d'Israël dit à Moïse, parle toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Il y avait cet homme, ce prophète intermédiaire qui avait l'onction et c'est par lui que tout passait et c'est par lui que le peuple pouvait connaître des choses qui viennent de Dieu. Mais là, à la Pentecôte, Pierre dit, la réalisation de la promesse, c'est vraiment que tout puisse être des prophètes. Cela note aussi, on l'a dit, hein, l'inauguration d'une ère nouvelle, l'effusion de l'esprit sur toute catégorie de personnes, mais la capacité même à prophétiser. Vous voyez ça ici, hein? Pierre dit quoi? Il dit, vos jeunes gens et vos jeunes filles auront des visions. Avant, il dit, je crois, vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos jeunes gens et vos filles et vos vieillards auront des visions. Verset 18. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ici. La capacité à prophétiser. Qu'est-ce que prophétiser? Si on vous demande qu'est-ce que ça veut dire prophétiser, je crois qu'on aura tendance à dire, ben, c'est pouvoir annoncer ce qui va se passer, faire des prédictions. Le prophète, c'est souvent celui qui, dans notre tête en tout cas, qui fait des prédictions et qui dit ce qui va se passer. Mais en réalité, la plus grande tâche du prophète n'était pas cela. C'était vraiment de parler des oracles de Dieu, d'enseigner le peuple sur les choses que Dieu lui avait commandé d'enseigner le peuple. Hein. Donc, ça n'est pas seulement le fait de dire des choses qui vont se produire, qu'on appelle prophétiser, mais c'est surtout la proclamation, c'est la prédication, ce n'est pas la prédiction, mais c'est la prédication de la parole de Dieu. Et donc, Pierre dit ici que même vos fils et vos filles seront comme les prophètes. Ils vont pouvoir annoncer aussi, même les oracles de Dieu. Et ce que Pierre dit à partir de Joël chapitre 2, c'est ce que Moïse avait déjà souhaité, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans ce même passage de Nombres que nous avons lu, je vais vous le lire ici, à un moment donné, il y a deux hommes qui s'appelaient Médad, je vais relire parce que je ne me rappelle plus leur nom. Hein. Ouais. dans Nombre chapitre 11, au verset 26, il est dit, il y eut deux hommes, l'un appelé Élad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lequel l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoi qu'ils ne soient point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Je vous fais en passant remarquer que l'Esprit repose sur quelqu'un et il fait quoi? Il prophétise. L'Esprit repose sur le prophète et le prophète prophétise. L'Esprit repose ici sur ces hommes et ces hommes prophétisent. Les 70 que Dieu a demandé à Moïse de choisir, verset 25, il dit que l'Esprit reposa sur eux et ils prophétisèrent. Ils annoncent, ils sont capables d'annoncer les oracles de Dieu. Et donc ces deux personnes prophétisent, nous dit le texte, et puis verset 27, un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, « Élad et Médad prophétisent dans le camp. » Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Ça veut dire quoi? C'est toi le prophète. Tout le monde ne peut pas prophétiser. Empêche-les de faire cela. Et Moïse, qu'est-ce qu'il répond? Regardez cela, c'est extraordinaire. Il dit, « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Et Moïse se retira au camp, lui, les anciens et les anciens d'Israël. Vous voyez ici, c'est le souhait de Moïse. Que tout le peuple de Dieu puisse être des prophètes. Et Joël dit, en ces temps-là, Dieu annonce par Joël, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » Et Pierre dit, « Eh bien cela, c'est ce qui vient en ce jour de s'accomplir. Désormais, tout enfant de Dieu reçoit l'esprit de Dieu et est capable de prophétiser. » Donc si vous êtes un chrétien, vous êtes un prophète parce que vous avez la capacité d'annoncer les oracles de Dieu. Quand vous parlez, vous témoignez dans la rue, vous annoncez par l'Esprit, n'est-ce pas, les oracles de Dieu. Vous prophétisez, c'est cela prophétiser, c'est pouvoir parler de Dieu, connaître Dieu, ici, sans même avoir besoin d'intermédiaires. C'est ce que la Bible dit, même déjà dans l'Ancien Testament, il est dit qu'un tel n'enseignera pas à son frère, à un autre, en disant « connais l'Éternel » parce que tous auront l'Esprit de Dieu et connaîtront Dieu. L'apôtre Jean dit « Pour vous, vous avez reçu l'onction, d'autres textes disent, vous avez reçu le Saint-Esprit de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » Avant, il fallait aller au prophète pour avoir cette connaissance. Vous n'êtes pas maintenant obligé d'aller au pasteur pour avoir cette connaissance. D'accord? Celui qui a l'Esprit de Dieu peut avoir cette connaissance qui vient de Dieu. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à l'étude biblique, qu'il ne faut pas aller aux réunions, au culte du dimanche, en disant « Mais j'ai l'Esprit de Dieu, je n'ai pas besoin qu'un homme m'enseigne. » D'ailleurs, la Bible dit ici, et 1 Jean 2, versets 20 et 27, dit « Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donné. » Vous dites, mais j'ai pas besoin qu'on m'enseigne. Sans onction, et sur moi, j'ai l'Esprit de Dieu qui repose, qui est en moi. Oui, je vous ferai remarquer que la première chose que font les 3000 premiers convertis qui ont reçu l'Esprit de Dieu, c'est de demeurer dans l'enseignement des apôtres. D'accord? Et quand on lit les Écritures, ils étaient tous ensemble assidus au temple, ils s'exposaient à la prédication de la parole. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller dans des séminaires, qu'il ne faut pas lire des livres. Il faut faire toutes ces choses. Ce que cela veut dire, c'est qu'il n'y a pas une catégorie de personnes sur laquelle repose l'Esprit et qui seules sont les dépositaires des oracles de Dieu. Vous pouvez, nous pouvons, par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui habite en nous, connaître Dieu véritablement et avoir une relation intime avec lui. Le peuple n'en avait pas, c'était le prophète qui avait cette intimité avec Dieu. Et c'était par lui que tout passait. Maintenant, la Pentecôte dit que, en tant que chrétien, eh bien, vous pouvez connaître ces choses. Éphésiens 2, 18 nous dit ceci, « Car par lui, par Jésus-Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Donc voilà ce que réalise la Pentecôte, c'est pouvoir permettre cette connaissance particulière qu'on appelle aussi hein, le fait de prophétiser, connaître Christ. Deuxième chose, donc première chose, la Pentecôte, on a dit, est l'accomplissement, la réalisation d'une prophétie particulière de Joël, mais la Pentecôte rend compte aussi de l'exaltation de Jésus-Christ. Regardez la suite de notre passage. On prend donc la lecture en Actes chapitre 2 et au verset 22. L'apôtre Pierre continue, après avoir exposé que ça c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël, il dit ici au verset 22, « Hommes, frères et Israélites, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par des miracles, des prodiges, des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon la préscience, selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » Pierre dit, je vais vous expliquer ce que c'est que la Pentecôte. Qu'est-ce que c'est que vous voyez là, à quoi cela correspond? Et il ne dit pas, il donne pas des explications sur les choses particulières qui se passent, mais il fait quoi ici? Il tourne la pensée des gens vers qui? Vers Jésus-Christ. Je vous invite à la maison à lire ce passage, et à regarder le nombre de références que Pierre fait, d'allusions qu'il fait à Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Il dit que la Pentecôte, en fait, concerne Jésus-Christ. Ce que vous êtes en train d'observer là, les phénomènes que vous observez, ont un lien étroit avec la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit, homme, frère, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth. Et de ce verset jusqu'au verset 36, je crois que 36, hein, jusqu'à la fin, il parle de Jésus-Christ. De manière. Donc il parle d'abord de sa résurrection. Il dit, vous l'avez crucifié. Ce Jésus-là, vous l'avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et c'est même de lui dont il était question dans l'Ancien Testament par David. David a prophétisé concernant Jésus, il va citer le psaume 16, versets 8 et suivants, pour soutenir cela. Et puis après, il va dire, ce Jésus que vous avez crucifié, bien Dieu l'a élevé, Dieu l'a exalté. Et il dit, d'ailleurs, David même, il n'est pas monté au ciel, mais il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et puis il dit, c'est ce Jésus que vous avez crucifié, mais que Dieu a fait Seigneur et Christ. Donc tout ce qu'il dit ici concerne Jésus-Christ. On ne peut pas dissocier la Pentecôte en disant « La Pentecôte, c'est la venue de l'Esprit. » C'est vrai, juste. Mais la Pentecôte a un lien extrêmement étroit avec la personne et l'œuvre de Jésus-Christ ici. Je remets de l'ordre dans mes pages parce que ça y est pas. Donc la Pentecôte rend compte, je l'ai dit, de l'exaltation de Jésus-Christ. La Pentecôte est un événement vraiment christocentrique, hein, on pourrait le dire ainsi. Et donc l'argument de Pierre, c'est quoi ici? Regardez ce qu'il dit au verset, à partir du verset 25 ici. Il dit, car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue est dans l'allégresse, et ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Homme frère, dit-il, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui. Vous pouvez même aller voir et trouver ses restes. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est à la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Il dit voilà. Donc, ce qu'il dit ici avec le psaume 16, c'est ce psaume, bien sûr, traite d'une résurrection. Et comme David n'est pas ressuscité, bien, David ne parlait pas de sa propre résurrection. Et donc, dans ce psaume, David parlait du Messie. Et par conséquent, le Messie devait ressusciter des morts. Et Pierre livre donc maintenant sa conclusion. Ici, il dit ce Jésus que Dieu a ressuscité. C'est ce Jésus, pardon, que Dieu a ressuscité. Et nous en sommes témoins. Donc, la preuve vraiment est concluante. Jésus, le Jésus de l'histoire, c'est le Messie. C'est ce message qu'il leur donne en premier lieu quand l'Esprit de Dieu descend, donc plein de l'Esprit de Dieu. Voilà ce que l'apôtre Pierre prêche. Hein. L'Esprit de Christ vient sur lui et lui fait prêcher essentiellement Jésus-Christ, qu'il est le Messie, celui que Dieu a envoyé. C'est ce que l'Esprit fait lorsqu'il repose sur quelqu'un. Comment on sait que l'Esprit de Dieu est sur quelqu'un? Eh bien, écoutez, ce que la personne prêche, si elle prêche Christ vraiment, eh bien, vous pouvez dire, oui, qu'elle prêche par l'Esprit de Dieu. Mais si c'est toute autre chose qui est mise en avant, on peut se poser des questions. Ensuite, il montre au verset 33, lisons ensemble, il dit, 33, « Élevé à la droite de Dieu », c'est là qu'il rejoint un peu, il referme la boucle, hein, si j'ose dire, hein, et qu'il revient aux événements du jour, il dit, « Élevé à la droite de Dieu », il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Et voilà. Donc, il est mort, il est ressuscité, il dit, il est monté au ciel, il a été élevé à la droite de Dieu et il dit, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu. Donc, ce que vous voyez là, c'est quoi? C'est la conséquence de quelque chose qui est invisible à vos yeux, à nos yeux. C'est l'exaltation de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui est répandu sur nous dit qu'il s'est passé quelque chose dans les cieux là où Jésus est monté à la droite de Dieu. C'est son intronisation, c'est son ordination, c'est sa glorification, hein. On pourrait aussi le dire ainsi. Donc la Pentecôte, c'est la preuve visible d'une grande réalité qui s'est produite vraiment dans les cieux. Le couronnement du Fils de Dieu. Et ce qui se passe sur la terre, dit Pierre, là, devant vos yeux et à vos oreilles, c'est la conséquence de cette exaltation de Christ dans les cieux. En Jean chapitre 7, verset 39, on lisait ceci. Hein, Jésus parlait, d'une certaine manière, l'apôtre Jean dit, il disait cela de l'Esprit que devait recevoir, et quand il dit que des fleuves d'eau vive couleront de son sein, celui qui croit en moi, il disait ceci de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc on voit le lien entre la glorification de Jésus et la venue de l'Esprit. Et Pierre dit, il faut penser ainsi. Quand on pense à la venue de l'Esprit, il faut penser que Jésus, Christ a été exalté. C'est pas juste sur le Saint-Esprit qu'il ferait ça, mais vraiment penser au fait que cela signifie que Christ a été exalté. Il a été reçu dans les cieux, il a reçu de son Père le Saint-Esprit, il s'est assis à la droite, et ensuite il a envoyé le Saint-Esprit comme il l'avait promis. Donc tout ce qu'il a dit être est vrai. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et l'apôtre Pierre termine en disant, il dit, car David n'est point monté au ciel. Il n'y a pas eu d'ascension de David. Il dit, mais il dit lui-même, il cite le psaume 110 ici, « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Il dit ici, voilà, c'est l'envoi de l'Esprit Saint, c'est vraiment le couronnement de Jésus-Christ. Il est assis à la droite de Dieu jusqu'à ce que tous ses ennemis soient mis sous ses pieds. Et un jour, il reviendra, il posera le pied, comme il est dit dans Josué, si vous pouvez lire cela dans Josué chapitre 10, verset 24, où Moïse dit au Dieu, dit à Josué, n'aie pas peur, pose ton pied sur le cou des rois. Il avait ramené des rois en captivité, il dit, pose ton pied sur leur cou. C'est l'image que, vraiment, ils dominent, ils sont à terre, ils sont anéantis. Lorsque on peut poser le pied sur le cou. Un jour, il dit qu'il posera, toutes choses seront sous ses pieds quand il reviendra. Et puis, il termine en disant, que toute la maison d'Israël sache donc. Et ça, c'est sa conclusion. Ça, c'est sa conclusion. Elle est importante. C'est-à-dire que la conclusion de la Pentecôte, c'est quoi? C'est que toute la maison d'Israël sache avec certitude, verset 36, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Ce n'est pas sur le Saint-Esprit que les projecteurs sont braqués. C'est sur qui? C'est sur Jésus-Christ qui se braque à la Pentecôte. Et Pierre dit, Dieu a fait Seigneur et Christ, sachez-le avec certitude, ce Jésus. C'est la conclusion de son message. Ce Jésus que vous avez crucifié. D'une part, Dieu l'a exalté, et d'autre part, vous l'avez crucifié. Celui que vous avez crucifié, que vous avez rejeté, vous n'avez pas cru qu'il était le Messie. C'est lui que Dieu a exalté. La preuve, nous l'avons. Il est mort, il est ressuscité, nous l'avons vu, nous avons bu, nous avons mangé avec lui. Nous avons été témoins de son élévation, nous l'avons vu monter au ciel. Et maintenant, il nous avait dit d'attendre qu'il nous enverrait le Saint-Esprit. Eh bien, voilà ce qui se passe actuellement. Il est vraiment le Seigneur, le Messie qui avait été promis. Que faire lorsque vous entendez ça? Que faire lorsque vous entendez ça? Eh bien, la question toute naturelle que posent ces hommes, ils sont, la Bible dit qu'ils sont vivement percés dans leur cœur quand ils entendent cela. Ils disent, mais nous avons donc crucifié celui qui est vraiment le Messie promis. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Que ferons-nous? Et c'est le troisième point de mon message. La Pentecôte témoigne de la nécessité de recevoir le Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est la réalisation de la promesse faite dans l'Ancien Testament. La Pentecôte, c'est la réalisation, la proclamation du couronnement de Jésus-Christ. Mais la Pentecôte nous enseigne aussi la nécessité de recevoir le Saint-Esprit. Regardez la suite de ce passage, ce que l'apôtre Pierre, ce que ces hommes disent, verset 37. Ils disent, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre, et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? Que ferons-nous ?» C'est une très importante question qu'il pose ici. Le cœur est touché. Déjà, le Saint-Esprit accomplit sa mission, parce que Jésus avait dit quoi ? Vous vous rappelez, dans Jean, il avait dit que lorsque le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et là, ces hommes sont déjà convaincus par l'Esprit de leur péché, ici. Et donc, après avoir dit « Que veut dire ceci ?» et entendre l'explication de Pierre, ils disent donc « Que devons-nous faire ?» Et quelle est la réponse de Pierre ? Regardez au verset 38, Pierre leur répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il dit ce que la Pentecôte dit aussi, c'est que cet esprit que Dieu envoie, il est nécessaire de le recevoir. Il est nécessaire de le recevoir. Parce qu'un jour il viendra, il mettra son pied sur tous ses ennemis. Et quiconque ne l'aura pas reçu, c'est qu'il aura été loin de lui. Il dit donc, repentez-vous. Ce n'est pas simplement, restez pas là, repentez-vous, tournez-vous vers Dieu, que chacun de vous soit baptisé, recevez le don du Saint-Esprit. Et c'est la réponse que Pierre apporte à ses auditeurs. Recevoir le Saint-Esprit est primordial. Il dit, l'apôtre Paul dit aux Romains, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et donc, il est important de recevoir l'Esprit de Christ. Mais comment est-ce qu'on le reçoit, l'Esprit? Comment est-ce que l'Esprit est reçu? Eh bien, si vous lisez Galates, il dit, voici, l'apôtre Paul explique comment l'Esprit est reçu, simplement par une question rhétorique, il dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? C'est une question rhétorique, hein? Ça veut dire, est-ce par ça ou par... Non, c'est pas par la loi, c'est par la prédication de la foi, ici. Donc l'Esprit est reçu par la foi que l'on met en Jésus-Christ. Il faut croire. L'apôtre Pierre dit ici, repentez-vous. Ailleurs, il dira, convertissez-vous. D'accord? Et tournez-vous vers Christ. Et regardons comment il dit cela, donc à la fin du passage, il dit... Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ce que Pierre dit ici à la Pentecôte, il dit pas, regardez, c'est merveilleux le fait de parler en langue, d'avoir cette puissance, ce feu qui descend. Je me souviens d'une collègue que j'avais qui disait et qui m'a dit, oh, j'étais là, bon, c'était dans une église particulière et elle me dit, bon, et deux coups dans le train, mais j'ai senti un feu descendre sur moi et je pouvais plus. Alors j'écoutais, mais c'est pas ce que Pierre dit ici, hein. Il dit pas vrai, non, il dit pas que vous allez, il dit convertissez-vous et repentez-vous. Il dit sauvez-vous de cette génération perverse. Il y a une urgence ici. Il dit que la Pentecôte nous dit qu'il y a une urgence, que Jésus est vraiment le Messie, que vous avez encore dans ce dernier temps où nous sommes la possibilité de vous tourner vers lui. La preuve, c'est sa mort, sa résurrection, son ascension, son exaltation et la venue du Saint-Esprit que vous voyez, que vous entendez. Alors, sauvez-vous de cette génération perverse. Et dans tous les récits qui suivent, on peut voir comment des personnes se tournent vers Christ et reçoivent le Saint-Esprit. L'histoire la plus peut-être extraordinaire est celle de Corneille. La Bible dit que, alors que l'apôtre Pierre parle dans la maison de Corneille, au chapitre 10 du livre des Actes, et qu'il lui explique l'évangile, et qu'il lui dit que les prophètes ont dit que quiconque met sa confiance en lui, eh bien, il aura le salut. À ce moment-là, il dit, l'Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient là. Probablement parce qu'ils ont cru à ce que Pierre a dit juste avant, bien sûr. Et puis, bien sûr, il y a eu des manifestations particulières pour prouver que c'est le même esprit de la Pentecôte qui est aussi tombé. Donc la Pentecôte témoigne de la nécessité vraiment pour chacun d'entre nous de recevoir l'Esprit de Christ, c'est-à-dire de croire en Christ et d'être marqué du sceau de son Esprit. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, vous après avoir cru, d'accord, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Cet Esprit se reçoit parce que l'on croit en Jésus-Christ et qu'on place sa confiance en lui et qu'on est marqué, estampillé au Seigneur. Et ce sont les arts. Et la Pentecôte nous dit aussi cela. Quelques mots pour conclure, chers frères et sœurs. Premièrement, je voudrais souligner vraiment le caractère christocentrique de la Pentecôte. C'est Christ vraiment qui est au centre de ce que l'apôtre Pierre dit ici. Ce ne sont pas les manifestations. Nous avons tendance à garder nos yeux sur les manifestations extraordinaires, le spectacle, on voudrait savoir à quoi correspond la langue de feu, à quoi correspond le vent, à quoi correspond... Pierre ne donne pas ces explications-là parce que ce n'est pas cela qui est important ici. Ce qui est important ici, c'est de ramener la pensée sur Jésus-Christ, son œuvre expiatoire, son ascension, son exaltation, et le fait qu'il est réellement le Messie. Deuxièmement, il est important de saisir la signification d'une chose avant de chercher l'expérience de cette chose. Ici, les personnes qui sont là disent « qu'est-ce que cela veut dire ?» Une fois que Pierre explique, par l'esprit, leur cœur est touché et ils disent « que devons-nous faire ?» Mais ils ne disent pas « oh, c'est super, je veux ça !» Oui, je veux ça, je veux être comme eux. Parler en langue, faire... Non, ils ne disent pas cela ici. Vous vous souvenez de Simon le magicien, hein, dans le même livre des Actes, ici. Lorsque Philippe, qui était là, donc avec Pierre, qui a eu aussi l'esprit qui est descendu sous lui, est parti en Samarie pour prêcher l'évangile. La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Simon le magicien. Et lui, il faisait des prodiges et tous les gens, du plus petit jusqu'au plus grand, étaient stupéfaits devant ses actes. Ils disaient, ouais, celui-ci, il a la puissance, celle qui s'appelle la grande. Et puis il dit, mais lorsque Philippe est arrivé, là c'était autre chose. Il dit que tous se sont détournés de cet homme et ils ont écouté Philippe. Et regardez ce qu'il dit dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Et à partir du verset 13, Actes chapitre 8, verset 13, verset 12, il est dit, « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, au nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même, le magicien, crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. » Où est-ce que ses yeux étaient? Les miracles et les prodiges qui se faisaient. Avec étonnement, il était là. Il n'avait ses yeux que pour cela. Regardons la suite. Verset 14, il dit, « Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils n'avaient seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. » Alors bien sûr, c'est l'histoire de la rédemption qui est ici. Donc faut pas, ce qui est fait là n'est pas des, ce sont pas des choses normatives, hein. Il y a des choses qui se font d'une manière puis d'une autre pour marquer des choses bien particulières. On n'a pas le temps de voir cela aujourd'hui, mais il faut pas croire que on vient au Seigneur et puis après c'est plus tard qu'on reçoit le Saint-Esprit. Parce que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc on ne peut pas appartenir à Christ sans avoir l'Esprit de Christ. D'accord ? Mais bon, là on est dans l'histoire du déroulement dans des phases intermédiaires, donc c'est pour cela que les choses sont dites comme ça. Alors verset 17. « Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit. » Et ça ici, hein. Il ne veut pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il veut? Le pouvoir de distribuer le Saint-Esprit. D'accord? C'est ça qu'il cherche ici. Cette sensation, je suis un homme important, je vais pouvoir allonger la main ici et vous recevrez le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont comme ça encore aujourd'hui de nos jours. Je vais t'imposer les mains. J'ai entendu quelqu'un dire, oui, tu t'es marié, c'est grâce à mon onction que tu t'es marié. C'est parce que Dieu, l'Esprit de Dieu est sur moi que je t'ai marié. Quand tu es venu ici, tu n'avais pas de travail. Quand tu es venu ici, tu n'étais pas marié. Tu sais pourquoi tu es marié, pourquoi tu travailles? C'est grâce à moi que tu as tout ça. J'ai le pouvoir de t'imposer les mains et de te bénir de cette manière-là. Parce que c'est exactement des Simons, ces gens-là. D'accord? Et qu'est-ce que Pierre lui dit? C'est important de noter aussi la réponse de Pierre. Il lui dit, que ton argent périsse avec toi, parce que tu as eu la pensée que le don de Dieu, c'est un don, s'acquérait à prix d'argent. L'Esprit est donné, c'est un don que Dieu donne, ceux qui placent leur confiance en lui. C'est un don gratuit. C'est Dieu qui les distribue. Et puis, je termine en disant aussi que la Pentecôte, c'est ce que nous avons vu ici, nous appelle à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. C'est comme ça que Pierre termine ici son sermon par un vibrant appel à la repentance et à la conversion. Donc si vous ne connaissez pas Christ, en ce jour de Pentecôte, où on célèbre le fait que Jésus a été exalté et que son œuvre accomplie a été parfaitement satisfait aux exigences de la sainteté de Dieu et de sa justice, qu'il a été accueilli par Dieu dans les cieux, il est assis à la droite de Dieu, qu'il a envoyé son esprit comme il l'avait promis. C'est cela que nous célébrons à la Pentecôte. eh bien, ces choses sont vraies. Et parce qu'elles sont vraies, eh bien, il faut penser à ce que celui qui a été rempli de l'Esprit ce jour-là nous dit ici. Repentez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Que la parole du Seigneur nous guide. Donc, l'Esprit de Dieu, la Pentecôte, c'est la réalisation vraiment de la promesse contenue dans l'Ancien Testament déjà, de la prophétie contenue dans l'Ancien Testament. La Pentecôte, c'est témoigne de l'exaltation de Christ, le fait que Christ est couronné, qu'il est Seigneur et qu'il règne dans les cieux. La Pentecôte aussi est un appel à la repentance et à recevoir l'Esprit de Christ en plaçant sa confiance en Jésus-Christ, en croyant en Jésus-Christ et en se repentant de ses péchés. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole. Te demandons que tu agisses en nous par ton Esprit Saint. Que tu nous permettes encore de considérer ces choses. Que tu nous donnes de porter nos yeux où il faut les porter. Non pas sur des manifestations simplement, mais sur ce qu'elles signifient. Sur ta personne, sur ton œuvre que tu as accompli, sur ton amour pour nous, que tu as manifesté à la croix du calvaire. Oui, tu es Seigneur et Christ, tu règnes, et un jour tu reviendras. Nous te prions que tu nous donnes de croire ces choses, d'appliquer nos cœurs à obéir à ta parole, comme ces hommes qui ont cru, qui ont été baptisés, qui ont reçu ton esprit, qui depuis ont marché avec toi. Nous te prions, Seigneur, de nous conduire en ce sens pour la gloire de ton nom. Amen.